Claude Drexel, bonjour. Donc, vous êtes le réalisateur de Sous les étoiles de Paris qui sort le 8 avril. Au départ, le film s'appelait Un voyage en hiver, puis j'ai même trouvé A Winter's Tale. Donc, plusieurs évolutions.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a changé le titre du film parce que au départ, c'était inspiré du cycle de Lieder de Schubert, Die Winterreise, le voyage en hiver, qui avait un rôle un peu plus important dans le scénario au départ. Et il y a encore un moment où on entend l'un des leads, d'Aliaman, le joueur de vielle, qu'on entend un moment dans le film. Mais voilà, il y avait moins de cette présence en fait des leaders de Schubert dans le film au final. Et c'est pour ça qu'on a changé le
Le
titre
titre.
pour Sous les étoiles de Paris.
Alors, Catherine Fro en tête d'affiche, femme sans abri, sans elle, est-ce que le film aurait été possible?
Ben, je pense que, en fait, elle est Catherine, c'est une femme qui est très, qui on ne sait pas trop, mais qui pose beaucoup de questions sur le monde qui l'entoure. Et je pense que elle est géniale dans le film. Est-ce qu'il aurait été possible sans elle? Je pense qu'il aurait été très différent. Je pense que ce qu'elle apporte, et c'est quelque chose auquel on tenait beaucoup, elle et moi, c'est la dimension un peu conte du film. C'est-à-dire que je pense que sans Catherine, on aurait fait un film peut-être beaucoup plus dur, âpre, etc. Et avec elle, on a réussi, parce qu'elle a ce grain de folie, un peu cette fantaisie que j'aime beaucoup, et ce qui nous permet de, voilà, de parler à la fois d'une histoire très, très dure, mais aussi d'être toujours à la limite entre le réalisme et le conte. Et c'est ce qu'elle apporte, et ça, c'est unique en fait.
En 2013, vous présentez à Cannes Au bord du monde le documentaire Paris la nuit, aussi les sans-abri. Une année de plongée dans cet univers, on est marqué à vie, non?
Ah oui, ça c'est pour moi, c'est sûr qu'Au bord du monde, c'est un tournant dans ma carrière, mais aussi dans ma vie. C'est-à-dire que c'est un film que j'ai eu envie de faire spontanément, sans vraiment savoir pourquoi. Étant dans la rue, enfin vivant dans cette ville de Paris qui est très riche avec le faste, etc., et de voir toutes ces personnes sur les trottoirs dans le métro, je me dis, mais en fait, qui sont ces personnes? Parce que même dans les reportages, souvent, on entend des personnes formidables, hein, mais qui sont les bénévoles ou les travailleurs sociaux qui s'occupent de ces personnes, mais on entend très peu, en fait, les gens de la rue eux-mêmes. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce documentaire où j'ai passé un an dans la rue, la nuit. Voilà. Et pour moi, ça m'a transformé plus que ce que je pensais au départ. Et il y a une phrase de Werner Herzog, qui est l'un de mes mentors, enfin un grand maître, qui dit « The poet must not avert his eyes », avec l'accent « The poet must not avert his eyes », avec son phrasé. Parce que voilà, le poète ne doit pas détourner le regard du monde qui l'entoure. Et c'est quelque chose qui moi, m'a très fortement marqué pendant cette année passée avec les sans-abri. Et c'est vrai qu'après,
Vous aviez l'impression que vous n'avez pas tout dit et qu'il fallait encore développer le sujet sous un autre
Alors déjà,
angle.
il y a une chose qui a énormément changé depuis l'époque où on a tourné le film, entre
Émigrant.
2012 et 2013, c'est l'arrivée des migrants. Et j'ai passé beaucoup de temps aussi dans les camps de migrants, dans les jungles, dans le nord de la France, à Calais, Grande-Synthe, tout ça, Tataguem. Et moi, ça m'a bouleversé. Et il y a certainement un documentaire très fort à faire là-dessus. Mais aussi parallèlement, beaucoup de choses,
Violette
d'histoires qu'on me...
Moreau a aussi travaillé sur justement
Oui,
ces
oui,
femmes.
formidable, qui fait un travail formidable, exactement. Et pourquoi la fiction? Parce que, pour deux raisons, je pense. C'est-à-dire que, premièrement, il y a des histoires qui se passent, ou des choses qui se passent vraiment, mais pas au moment où la caméra du documentaire tourne. Et donc, je sais que ça existe, et j'ai envie d'en parler. Et donc, c'est très bien de le mettre, de l'écrire et de le mettre dans une fiction. Et je pense aussi que la fiction peut apporter cette dimension de conte et de toucher peut-être un public plus large. Parce qu'un documentaire, je pense qu'il n'y a que les gens qui sont déjà convaincus, en fait, qui vont voir un documentaire. En revanche, un film avec Catherine Fro, je pense qu'elle attire un public peut-être plus large, et ça permet de sensibiliser donc ces personnes à un sujet qui n'aurait peut-être pas, auquel ils ne seraient peut-être pas confrontés sinon. Et ça, je pense que c'est... Bon, en fait, moi, si je peux résumer en une phrase, en fait, le sens du travail que j'essaye de faire, c'est de montrer l'être humain de chaque personne, et qu'on arrête de juger les personnes parce qu'ils appartiennent à un groupe qui n'existe pas finalement. On dit les migrants, les prostituées, mais en fait on ne connaît pas ces personnes, ça n'existe pas, il n'y a que des individus, et c'est ça que j'essaie de révéler. Et je pense que c'est peut-être quelque chose, moi mon rêve c'est qu'en sortant du cinéma, le spectateur se dise voilà, il faut que je fasse attention à chaque être humain, quel qu'il soit.
Cette vision poétique-là, la balance n'est pas évidente avec le réalisme de la situation, hein ?
Oui, c'est très difficile. Alors, je ne sais pas si on a réussi. On a tout fait pour, en tout cas, parce que... Et c'est chaque millimètre du film, je ne sais pas comment on peut dire, en fait, est pesé dans cette balance. Donc, est-ce que c'est les cheveux de Christine, son costume, la manière qu'elle a de s'exprimer, la manière de filmer, etc. Est-ce qu'il faut toujours, à chaque instant, au montage, dans la musique, on sait tout le temps se poser la question de est-ce qu'on est trop du côté du conte, est-ce qu'on est trop du côté du réalisme, et de trouver ce point de jonction où à la fois on est dans le conte, mais on se dit c'est complètement crédible aujourd'hui. Ça, par exemple, avec Catherine, on a été beaucoup dans les distributions de repas, au contact des sans-abri, pour se dire voilà, la personne qu'elle interprète, en fait son personnage, c'est une femme qu'en 2020 on pourrait croiser dans Paris, mais qui parallèlement on pourrait imaginer que dans un conte, ça fait 500 ans qu'elle habite sur les bords de la Seine.
Alors le fait de prendre aussi des noms professionnels, ça rend fatalement plus crédible, mais est-ce que l'alchimie est facile à réaliser ?
Je ne sais pas, en fait. Moi, pour moi, en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai beaucoup d'affection pour les personnes que j'ai rencontrées, que je connais, qui sont des gens à la rue, et je voulais absolument les faire jouer dans le film. Et donc, par exemple, le petit déjeuner qu'on voit au début du film, ça, c'est vraiment des personnes que je connais bien et qui vont, effectivement, tous les samedis matins, à 6h30 le samedi matin, prendre leur petit déjeuner dans cette église Saint-Leu, et avec entouré de bénévoles qui sont formidables. Et donc, moi, ça me fait chaud au cœur. Et c'est pas... Alors, à la fois, j'espère que, du coup, dans le film, ils sont crédibles parce que c'est vraiment ces personnes-là, mais c'est aussi parce que, voilà, ça, je trouvais ça chouette de les faire participer à cette aventure.
Alors, bon, on parle de Paris, film français, et pourtant, il y a beaucoup de belgitude quand même. On va arriver au niveau montage financier. Joseph Ouskop, bon, avec Gad Buster, c'est impliqué en tant que producteur. Wallimage a cofinancé. Comment avez-vous convaincu, ces courageux producteurs et financiers ?
Mais écoutez, alors, c'est pas du tout, je ne sais pas du tout de caresser dans le sens du poil, mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'affection pour la Belgique, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'humour, de regard un peu décalé sur le monde, qu'on a peut-être moins en France. Moi, je suis allemand, j'ai grandi en France, donc je suis toujours un peu un étranger, même si ça fait longtemps maintenant que je suis en France. Et j'ai beaucoup d'affection pour la Belgique. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, l'histoire de la coproduction belge est arrivée assez tard. Et ils m'ont dit, ah mais oui, parce qu'on a quand même des contraintes par rapport à la coproduction, c'est qu'il faut au moins, dans les techniciens, deux chefs de poste belges. Et je dis, bah, on les a déjà. C'est-à-dire que j'avais déjà Pierre-François Limbosch, qui était chef décorateur, et Philippe Gilbert, le chef op, et que j'avais choisi pas du tout pour une question de coproduction, mais que j'avais choisi parce que voilà, j'avais envie de travailler avec eux.
Et puis on se retrouve à l'aéroport de Liège.
Alors, l'année prochaine, ça a été tourné. Il était question à un moment de tourner à l'aéroport de Liège, mais au final, on a tourné quand même à Roissy et Orly, en fait. Même si l'histoire se passe à Roissy, les souterrains ont été tournés à Orly.
Ah, c'est vrai que ça devait être assez impressionnant quand même, non ?
Ouais, enfin, moi j'adore en fait tout ce qui est bas-fond. Je trouve que c'est très beau en fait, ces longs couloirs de béton, tout ça. Et d'ailleurs, les sous-sols d'Orly sont beaucoup plus beaux que les sous-sols de Roissy. C'est un peu vexé Roissy qui se prennent un peu pour le grand aéroport, mais non, on a tourné des deux côtés.
Alors justement, Philippe Gilbert, lui, il avait déjà travaillé avec Catherine, puisque c'était lui qui était déjà sur Qui m'aime me suive.
Oui.
Est-ce que ça crée justement certaines symbioses sur un plateau ?
Oui, alors moi, Catherine m'avait justement beaucoup parlé de Philippe, qu'elle aimait beaucoup à la fois son travail et sa manière de travailler. Et c'était chouette. Et puis après, on s'est rencontrés avec Philippe et il y a eu tout de suite une connexion très forte qui s'est faite. Et c'est vrai que je lui dois beaucoup parce que c'est un gars qui à la fois est d'une grande gentillesse, d'une énorme générosité, humainement et dans le travail. Et puis je trouve que il a réussi à donner cette image, voilà, à se fondre lui aussi dans ce qui était le challenge du film, ce réalisme et le côté de la poétique.
Alors, vous êtes vous-même chef op. Est-ce que c'est votre formation Beaux-Arts qui vous amène nécessairement à avoir... c'était une évidence.
Oui, moi, j'ai un passé de chef op. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, moi, je voulais être ingénieur du son dans la musique classique. Je voulais enregistrer de la musique. et au début de mes études de technicien du son, j'ai eu un court-métrage à réaliser parce que c'était un exercice imposé. Et tout à coup, j'ai eu une espèce de révélation. J'ai tellement adoré réaliser ce court-métrage que je me dis, il faut que je devienne réalisateur. Et je me suis bien rendu compte que bien connaître le son, c'était intéressant pour savoir ce qu'on peut faire avec le son techniquement en tant que metteur en scène. Et après, j'ai fait beaucoup de montage pendant mes études et je suis diplômé effectivement de l'école de cinéma en section image. Et j'ai travaillé comme directeur de la photo. Mais c'était quand même toujours dans l'optique de faire la mise en scène, mais de bien maîtriser ça. Donc j'ai fait mes classes en tant que directeur photo, mais voilà, j'ai pas du tout un niveau comparable à celui de Philippe, évidemment. Mais ce qui est bien, c'est que ça me permet effectivement un dialogue plus rapide avec les techniciens. Et c'est pas du tout une question de faire l'image à la place du chef-op parce que je sais à peu près comment ça marche.
Il y a au moins un dialogue, ce qui n'est pas toujours évident.
Ça me permet d'avoir un dialogue peut-être plus rapide et peut-être d'avoir plus de temps avec les comédiens. Et c'est vrai que voilà, moi je viens d'une famille de peintres du côté de ma mère, et moi aussi je peins
l'unique
un peu.
Voix, c'est ça, une grande famille quand même.
du côté paternel de ma mère, oui, les Chartes qui étaient des peintres et qui voilà.
J'ai même vu que vous étiez un descendant direct de Martin Luther. Ça c'est la totale quand même.
oui, après vous savez, en pyramide, je pense qu'on est nombreux, mais c'est il y a cette racine, je sais pas, peut-être. Après, chacun doit faire chacun doit faire son chemin. Et je sais pas si ça donne des lettres de noblesse. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est un personnage historiquement important, controversé pour certaines choses aussi. Mais il aimait beaucoup manger et boire. Et il aimait bien profiter de la vie, ce qui est quand même pas mal.
Alors, l'an dernier, vous vous retrouviez nominé pour votre documentaire America. Donc au César, grand moment aussi. De nouveau des oubliés, les périodes électorales Trump, on est en plein dedans pour aussi. Cette route 66 qui vous a marqué quand même aussi, semble-t-il.
Oui, c'est un endroit que j'adore. Et en fait, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis. C'est un pays qui me fascine et qui me choque, enfin qui me touche. Enfin, c'est un pays quand même assez incroyable. Et j'avais pas été en Arizona depuis le début des années 90. Genre en 92, j'avais fait un voyage avec mon sac à dos à travers tous ces paysages incroyables. Et j'avais le souvenir, en fait, de ces paysages fantastiques et aussi de ces laissés-pour-compte qui vivent dans des conditions très délaissées, en fait, dans les caravanes. Et donc, je me dis, voilà, je suis parti spontanément avec Sylvain Lézère, qui fait l'image de mes documentaires. On est partis tous les deux. J'ai pris le son, donc j'avais l'avantage de pouvoir prendre le son sur le film. On est partis tous les deux un peu totalement à l'aventure, en impro. Et c'était une histoire géniale pour nous, parce qu'on est partis sans financement, spontanément. Quand j'ai vu que Trump était le candidat des Républicains, je ne pouvais pas imaginer la catastrophe qu'il soit élu. Mais je me dis, voilà, je voulais être sur place pendant cette période électorale. Et on est parti spontanément comme ça. Voilà, montrer aussi une fois de plus le contraste entre les paysages mythiques de l'Ouest américain et les laisser pour compte. Et puis après, effectivement, c'était comme un conte de fées un peu, parce qu'on a fait le film, on n'avait pas un rond. On s'est totalement surendetté avec Laurent Lavollée aussi, mon producteur. Et effectivement, pendant le cours du montage, pouf, tout s'est mis en place. On a eu un distributeur, Diafana, qui a sorti le film. Ça a très bien marché.
Et une musique d'Ibrahim Malouf.
Et la musique d'Ibrahim Malouf.
Jasmine, c'est quand même pas mal.
Ça, c'était génial.
Mais je pense que... gâteau, quand même.
Tout à fait, parce qu'on peut tenter, effectivement, quand on a la route 66, etc., de mettre une musique un peu typique de l'Ouest américain. Et avec Ibrahim, on s'est dit, ben non, on va essayer de faire un contrepoint, un truc un peu étonnant. Et ouais, c'était génial de travailler avec lui.
Alors, la musique, justement, sous les étoiles de Paris, c'est Valentin Adjache. qu'on connaît bien aussi en Belgique, finalement aussi. Bon, il a travaillé avec Luc Hadon dans Girl, un monde plus grand. Ça aussi, c'est quand même une belle référence, non ?
Oui, alors pareil, c'est un jeune compositeur que je trouve plein de talent et qui lui aussi s'est posé beaucoup de questions sur qu'est-ce qui est juste par rapport à ce film. Et quelque chose que j'adore, c'est qu'il m'a proposé à un moment l'instrument qui n'est pas du tout un instrument logique pour ce genre de film. Il me dit, je voudrais faire le thème principal au cor. Et je me dis, ah oui, ça apporte un côté wagnérien un peu à ce film. Un peu comme Ibrahim Maalouf sur America qui fait un peu un contrepoint. Là aussi, on a ça, ce contrepoint musical, il y a des trucs presque un peu Star Wars du corps, et je trouve ça génial parce que ça donne le côté aventure au film qui, pour moi, est vraiment important aussi parce que c'est finalement une traversée de Paris, mais pour une femme à la rue comme ça et un petit gamin, c'est une odyssée.
Alors, quand même, quelques mots pour Mahamou Yafa, donc qui interprète Souli, ce Burkinabé donc de 8 ans. Où est-ce que vous l'avez trouvé ?
Alors, ma première idée, c'était de faire jouer un vrai enfant de migrant dans le film. Mais alors, c'était compliqué à deux niveaux. C'est-à-dire que, premièrement, par rapport au droit du travail, il faut que les parents soient en règle pour que l'enfant puisse travailler. Et donc ça, souvent, les migrants n'ont pas de papier, donc c'est interdit. Et puis aussi, je me suis posé la question, est-ce que c'est bien un gamin qui a peut-être fait un voyage traumatisant
de revivre,
je sais pas. Et en tout cas, c'est surtout cette histoire du droit du travail qui nous a imposé le fait de prendre un enfant dont les parents sont en règle ici. Et là a commencé un casting à très grande échelle, à la fois dans la rue, mais aussi dans les clubs de sport, dans les écoles. Et au final, on a vu une centaine de gamins. Et puis Mamadou, tout à coup, qui, au milieu de tout ça, qui était fantastique. Et qui, je me souviens de la rencontre, parce qu'on a fait beaucoup de tours de casting, d'éliminations successives avec des enfants qui étaient géniaux, mais qui ne correspondaient pas exactement à ce qu'on avait en tête. Et à la fin, je me souviens de la première rencontre de Catherine et de Mamadou, où il y avait vraiment eu une étincelle, en fait, et j'ai vu que ça marchait entre les deux. Et c'était génial. Et puis le fait d'avoir ce gamin aussi qui est très beau et qui apporte une poésie au film aussi.
Aussi, de nouveau, la poésie.
Voilà.
Un grand merci en tout cas.
Merci à vous.
On rappelle donc que le film sort normalement le 8 avril sous les étoiles de Paris. Merci.